La revue de presse avec vous, Sarah Guibaudot, bonjour.
Bonjour.
C'est le début des vacances et l'occasion pour la presse de prendre un peu de recul.
Une semaine après l'appel à dénoncer harcèlement et agression sexuelle sur les réseaux sociaux, la presse revient ce matin sur l'onde de choc de l'affaire Weinstein. En politique aussi, la parole se libère, titre Le Parisien. Et comme autant de répliques du séisme hollywoodien, des hommes politiques sont donc publiquement dénoncés. Pierre Joxe, Christophe Farin ou Jean Lassalle. Jean Lassalle qui fait aussi l'objet d'une enquête de Mediapart intitulée « Un député gluant ». Il y aura peut-être des procès en diffamation, mais les faits sont souvent prescrits. Alors comment mettre en œuvre cette injonction de Laurent Geoffrin dans Libération après hashtag balance ton porc, le temps de la justice? Comment prendre en compte ce flot de paroles? Pour Laurent Geoffrin, la dénonciation est efficace puisqu'elle révèle un continent noir, celui du harcèlement dans l'impunité exercée à l'encontre des femmes. Mais pour Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, il ne faudrait pas céder à une hystérie collective qui consisterait à jeter en pâture les noms de personnages divers et variés, les uns véritables harceleurs certes, les autres au final victimes de rancœurs qui n'auraient rien à voir avec le sujet. Alors comment changer les choses? Dans le Figaro, quelques pistes si on reste dans le monde du cinéma. Un producteur veut créer un système d'alerte. Il faut casser les angles morts comme les moments où le réalisateur va faire son casting dans son coin, explique Charles Gilibert. Le syndicat français des réalisateurs estime qu'un vent de changement est en train de souffler. La bataille culturelle qui s'annonce ne s'arrêtera pas à quelques têtes qui tombent. Satisfaction trouble et temporaire à laquelle nous ne prenons pas plaisir. Elle se mènera sur le terrain de la redéfinition des postes de pouvoir, leur redistribution, leur diversification.
Un peu de recul dans la presse ce matin, un peu de recul aussi sur une mesure qui menace les abeilles.
Oui, alors si elle devait passer en catimini, c'est raté. Le Monde est venu nous rappeler qu'alors que les récoltes de miel s'effondrent, un nouveau néonicotinoïde, un insecticide tueur d'abeilles, vient d'être autorisé en France. La République des Pyrénées interpelle Nicolas Hulot. Monsieur le ministre, n'avez-vous rien à dire sur la disparition des insectes? On a souvent le sentiment que vous avez fait arbitrer vos choix par la FNSEA, tenant de cette agriculture intensive qu'il faudrait justement changer, lance Jean-Marcel Bougreau. Denis Domin rappelle dans la Nouvelle République du Centre-Ouest que sans cette faune minuscule et affairée, les abeilles, plus de fruits, de légumes, ni blé, ni foin, rien en somme. L'éditorialiste observe que prudents et mieux exercés à résister au lobby de leurs propres industries, les Américains ont bloqué le projet chez eux, laissant les vents portants le pousser jusqu'ici. Face à la fronde des défenseurs de l'environnement et des apiculteurs, le gouvernement a demandé à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de réexaminer d'ici 3 mois le dossier du sulfoxaflore. Mais pour Denis Domin, c'est un écran de fumée, comme on dit dans les ruchers. En attendant, le miel sera bientôt au prix du café. Le cours du beurre a presque triplé et on n'ose pas parler du café ou du cacao, souligne Libération, qui titre en une « Alerte rouge sur le petit-déj ». Pourquoi une telle flambée sur les ingrédients d'un bon petit-déjeuner? L'effet du bouleversement climatique, du manque de biodiversité et des pesticides notamment. Nouvelle alerte aussi sur le nucléaire, c'est dans Le Parisien. Une nouvelle centrale est pointée du doigt par le gendarme du nucléaire, c'est Belleville-sur-Loire dans le Cher, dont les réacteurs ont été mise en service en 1987 et 1988 et que l'autorité de sûreté nucléaire a placé sous surveillance. Une formule très neutre pour une mesure exceptionnelle et loin d'être anodine, précise le journal. En cause, des canalisations rouillées qui fuient, des dégradations significatives de pièces essentielles à la sûreté, comme les systèmes d'alimentation électrique de secours. EDF n'y voit que des signaux faibles et annonce avoir renforcé ses équipes.
Également dans la presse de ce samedi, Sarah, la fin de l'impôt sur la fortune et la fortune de l'art contemporain.
Oui, les députés ont voté la suppression de l'ISF, annonce sobrement Le Figaro, qui décrit une journée de vifs débats hier à l'Assemblée, alors que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a salué la fin d'un totem vieux de 35 ans qui était devenu inefficace et complexe. ISF, une mise en bière sur fond de Paris, titre Libération, pour justifier un manque à gagner pour l'État de 3,2 milliards d'euros. La République En Marche mise sur le retour au pays des plus riches installés à l'étranger. En contrepoint, à la une du magazine de L'Équipe, Juan Mata, le footballeur qui veut changer le monde, En payant un petit ISF, peut-être, l'international espagnol de Manchester United a décidé de verser 1% de son salaire à des œuvres caritatives. À lire aussi dans le Figaro comment des centaines d'héritiers se retrouvent privés d'héritage. L'ISF n'y était pour rien, ce sont deux cabinets de généalogie qui sont visés par des enquêtes judiciaires. Ces chasseurs d'héritiers peuvent vous annoncer un jour qu'un parent dont vous ignoriez l'existence vous a laissé une petite fortune. Il se rémunère en prenant une partie de l'héritage, mais ces deux cabinets ont fait faillite et ont tenté d'éponger leurs dettes avec l'argent de quelques 1900 clients. Alors pour atténuer l'effet de la suppression de l'ISF, un impôt sur la fortune immobilière est créé. Sans doute seront aussi surtaxés les acheteurs de Ferrari, de yachts ou de jets privés, mais pas ceux d'œuvres d'art, remarque Michel Guérin en dernière page du Monde. Pourtant, l'ostentatoire n'est pas vraiment étranger à un art contemporain mondialisé qui tutoie l'argent roi, estime le chroniqueur culturel. Il y avait donc débat, mais le jeu drôle est joué d'avance, poursuit Michel Guérin, car le débat budgétaire coïncide toujours avec la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain de Paris. Pas le moment de gâcher la fête. L'Obs s'interroge sur ses œuvres qui suscitent la convoitise des spéculateurs et des collectionneurs. L'hebdomadaire présente les 10 tableaux les plus chers au monde. Savez-vous quel est le dernier record établi en 2015?
À coup de millions, je pense.
Ah oui, 255 millions d'euros pour une peinture abstraite de Willem de Kooning. Alors si vous avez envie d'aller faire un tour au Grand Palais ce week-end pour vous faire une idée de ce qu'offre l'art en ce moment, vous trouverez déjà quelques éclairages dans les journaux ce week-end. Notre shopping à la FIAC de 500 à 4 millions d'euros, c'est dans Le Point. En dehors de la foire commerciale, l'hebdomadaire vous indique aussi le programme artistique qui a essaimé dans la capitale. Le MoMA à la Fondation Louis Vuitton, Gauguin au Grand Palais, des sculptures à voir aux Tuileries et Place Vendôme. Mais retour à la dernière page du Monde où Michel Guérin regrette, lui, une absence, un panorama photographique de Pascal Convert qui restitue le site de Bamiyan en Afghanistan, avec ses bouddhas géants détruits par les talibans en 2001. Le jury de la FIAC l'a refusé. Rien de scandaleux pour le chroniqueur, juste un symptôme de l'époque. L'œuvre n'est pas assez fun pour la FIAC, mais elle est à découvrir dans une galerie de la rue du Temple à Paris.
Comme quoi, il faut être fun pour aller exposé à la FIAC. Très bien, on notera ça. C'était la revue de presse de Sarah Guibaudot. Merci et à demain, Sarah.